VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Conakry, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, du matériel électoral destiné au scrutin législatif et communal du 5 juin brûlé ce matin au sud de la capitale par des adversaires d'un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Par ailleurs, reprise des manifestations à Bujumbura même, la journée d'hier avait été manquée par des tirs nourris et incessants de la police dans la capitale, ce qui n'a pas empêché les manifestants de continuer leurs protestations. Anne Albertson.
Dans Bujumbura, jeudi, des incidents ont éclaté à intervalles réguliers dans les habituels quartiers contestataires de la périphérie de la capitale. Ces violences ont été particulièrement intenses dans le quartier de Musaga. Au moins deux manifestants ont été tués par balle, selon un bilan provisoire de la Croix-Rouge burundaise. Écoutez le témoignage de Sosten Simbarakiye, un habitant de Bujumbura.
Il y a la milice du gouvernement qu'on appelle Imbonerakure qui manifestait quartier Kanyosha sous l'appui de la police qui cherchait le chemin en faisant des tirs pour écarter la population. Ce soir, c'est surtout dans le quartier de Musaga, les militaires ont essayé de repousser les manifestants et il y a eu des tirs qu'on entendait déjà d'ici de Kinindo. Là, on entendait vraiment les tirs, c'était vraiment trop fort.
Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées depuis un mois lors des manifestations. À ce jour, près de 110 000 Burundais ont fui leur pays. Sur le plan diplomatique, le gouvernement burundais apparaît de plus en plus isolé. La Belgique, ancienne puissance coloniale, a menacé d'arrêter son aide bilatérale en cas de troisième mandat de M. Nkurunziza.
Burundi toujours, les médias indépendants restent dans le collimateur des autorités. À preuve, la justice burundaise réclame des comptes à Innocent Muhoozi, le patron de Radio-Télé Renaissance, organe privé détruit durant le coup d'État manqué. Il n'a toujours pas accès à ses locaux. Le témoignage d'Innocent Muhoozi au micro d'Idriss Fall.
Ça fait un moment que les policiers ceinturent tous les bâtiments qui ont été attaqués et interdisent l'accès. Et nous avons une décision du procureur général de la République qui précisait qu'il était interdit d'accéder à ces locaux pour raison d'enquête et qu'il était strictement interdit d'y entrer sans autorisation préalable du parquet. Donc nous n'arrivons pas à entrer dans nos locaux, c'est aussi simple que ça.
Est-ce que ça pourrait être lié au fait que votre radio avait diffusé le message des putschistes?
Ça peut être lié à ça, ça peut être lié aussi à une animosité qui s'est développée ces derniers temps envers les médias indépendants. Donc c'est clairement, à mon avis, les deux aspects. Ce n'est pas venu comme ça brutalement. Non, il y avait une animosité déjà, une incompréhension depuis bien longtemps entre les pouvoirs publics et les médias indépendants qui étaient là et qui tournent à l'agression de plus en plus physique, même des journalistes, avant qu'il n'y ait eu ces attaques en règle.
Qu'en est-il de l'ensemble des radios privées?
Non, il n'y en a plus une seule. Les seules radios qui restent, ce sont des radios spécialisés, disons, sur des domaines très précis, mais pas d'information générale. Donc les principaux médias qui donnaient l'information, qui participaient au débat, qui animaient le débat, n'existent plus du tout. Ils ont été physiquement liquidés, c'est aussi simple que ça.
Et ça va prendre combien de temps pour réparer tout ça?
Si on ne nous empêche pas maintenant, par divers stratagèmes politiques, de recommencer, on peut se débrouiller et pouvoir avoir une ou deux qui puissent être remises sur les ondes assez rapidement, mais pour l'instant, il faut qu'on arrive à surmonter l'obstacle politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique de nous laisser travailler ou pas? C'est ce que nous essayons de vérifier maintenant.
Innocent Muhoozi, le directeur de la radio-télévision Renaissance. En RDC, dissension au sein de l'opposition concernant la réponse à donner à l'offre de dialogue de la part du pouvoir. Plus de précision avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Depuis le début du mois de mai, un émissaire du chef de l'État consulte opposition et société civile en vue d'un éventuel dialogue. Pour le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'une réponse du président de la République à la demande de l'opposition. À l'UDPS, on salue cette avancée. Félix Tshisekedi, au cadre du parti de son père, tient tout de même à ce que ce dialogue s'inscrive dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba.
Nous serons, nous, en tout cas de l'UDPS, inscrits dans la logique qui est celle imprimée par l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est-à-dire de mettre la communauté internationale au centre de nos débats. Donc il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'il y a une récupération politique de la part de M. Joseph Kabila qui voudrait reprendre d'une main ce qu'il avait perdu de l'autre en faisant des concertations qui n'ont jamais été crédibles.
Ce point de vue est partagé par Steve Mikai, le porte-parole de l'opposition dite nationaliste, pour qui ce dialogue va baliser la voie vers des élections apaisées.
Le dialogue a été demandé à corps et à cri et moi-même qui vous parle, j'ai été porte-parole de la coalition pour un vrai dialogue. Donc l'opposition nationaliste est prête à dialoguer parce que même quand on se tire dessus, on se fait la guerre, on finit toujours par dialoguer.
Cependant, de nombreuses organisations de l'opposition, notamment l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo ou encore les CID de Martin Fayulu, voient en cette initiative la possibilité pour le pouvoir d'obtenir le glissement du calendrier électoral. De son côté, la MONUSCO, dont les bons offices ont été sollicités par les favorables au dialogue, se dit prête à accompagner ce processus. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, la société civile n'apprécie pas les mises en garde du 47e sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana, cette semaine, concernant la transition dans le pays et toute possible exclusion dans le processus électoral. La réaction d'Ismaël Diallo, président du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou, au micro de Bagassi Koura.
La CEDEAO l'a fait probablement en pensant que nous avons, nous, au Burkina Faso, nous avons dans la loi sur le code électoral exclu des personnes. Mais nous n'avons exclu personne. Pour qui lit la loi, c'est une loi qui n'exclut pas des individus, mais c'est une loi simplement qui sanctionne des personnes qui ont voulu corrompre la Constitution. Et nous sommes très surpris de cette décision de la CEDEAO.
Peut-être que malgré toutes les explications, les Burkinabés n'ont pas encore pu convaincre la communauté internationale que cette loi n'est pas une loi exclusive.
Nous n'avons peut-être pas pu convaincre certaines personnes physiques et morales, mais simplement pas parce que nous n'avons pas d'arguments ou que nos arguments ne sont pas justes, mais parce que ces personnes ont d'autres intérêts et qui ne sont pas les intérêts du Burkina Faso. Je le dis sans ambages. Où étaient ces personnes en octobre 2014, lorsque le pouvoir d'alors a voulu corrompre la Constitution pour pérenniser le pouvoir de celui qui était président? Où était le président de la Côte d'Ivoire pour ne pas le nommer? Où était le président de la commission de la CEDEAO pour ne pas le nommer?
Et Alassane Ouattara, à son retour à Abidjan, a aussi parlé du fait que l'exclusion ne sera pas acceptable au Burkina Faso.
Oui, mais il prend vraiment une très grande liberté de dire en tant que président de la Côte d'Ivoire que l'exclusion ne serait pas acceptable au Burkina Faso. Eh bien, alors qu'il use des moyens qu'il a en tant que président de la Côte d'Ivoire pour venir nous obliger, nous, au Burkina Faso, à revenir sur la loi que nous avons adoptée.
Ismaël Diallo, président du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou. À Washington, le président Barack Obama a accordé à la Tunisie le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. C'était à la faveur de ses entretiens hier à la Maison-Blanche avec son homologue tunisien Béji Caïd Essebsi, Lionel Gaïma.
La Tunisie est ainsi devenue le 16e pays au monde à être honoré de la sorte. Le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN permet aux États-Unis de nouer des alliances hors du cadre de l'Alliance Atlantique. Il ouvre la voie au renforcement des relations militaires et financières avec les pays concernés, sans pour autant aboutir à un accord de défense mutuelle. Les États-Unis croient en la Tunisie, a déclaré le président Barack Obama en promettant de continuer d'appuyer les réformes démocratiques entreprises par ce pays à la faveur du printemps arabe, des réformes qui ont permis au président Essebsi de devenir le premier leader démocratiquement élu de la Tunisie. La Maison-Blanche a demandé au Congrès 138 millions de dollars d'aide en faveur de la Tunisie, dont plus de 62 millions pour la partie militaire.
En Syrie, nouveau progrès des rebelles islamistes dans le nord du pays. Aujourd'hui, dans leur lutte contre le régime du président Bachar Assad, selon l'Observatoire syrien pour les droits humains, le front al-Nusra affilié à Al-Qaïda a finalement pris le contrôle d'un hôpital des environs de la localité de Jish al-Shougour, assiégé depuis des semaines. Des dizaines de soldats gouvernementaux et autres loyalistes pro-Assad s'y étaient retranchés et repoussaient toutes les attaques depuis fin avril. Pour sa part, le groupe État islamique a chassé les troupes gouvernementales syriennes de la ville antique de Palmyre cette semaine. Malgré ces progrès du groupe extrémiste, le président Barack Obama affirme que les États-Unis ne sont pas en train de perdre le combat engagé contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Le chef de l'exécutif américain rappelle qu'il a toujours souligné que la campagne contre les djihadistes prendrait plusieurs années. Et enfin, la crise yéménite, la coalition menée par l'Arabie saoudite maintient la pression sur les rebelles chiites, houthis et leurs alliés au Yémen. Il y a eu des raids sur la capitale Sanaa et aussi dans la province de Marib. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.